Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'association A Vue de Truffe, l'école de chiens guides de Caen Normandie à Mondeville. Le but de ce podcast, c'est de présenter aux auditrices et aux auditeurs la vie et les actions de plusieurs personnes aux expériences et aux parcours de vie différents, mais qui sont confrontées chaque jour à la question du handicap visuel. Et dans ce nouvel épisode, nous sommes en ligne avec Magali, non-voyante et bénéficiaire de chiens guides et championne du monde de para-apnée en 2024. Bonjour Magali.
Bonjour.
Alors, merci tout d'abord d'être avec nous pour cette petite interview qui va parler un petit peu de votre vie et de vos loisirs, surtout très sportifs. En première partie, j'aimerais beaucoup qu'on parle de votre parcours jusqu'à la déficience visuelle. En fait, vous êtes née voyante et petit à petit, vous avez perdu la vue.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu une enfance, on va dire, tout à fait ordinaire. Sauf que autour de mes 13, 14, 15 ans, il a été repéré une maladie de la rétine. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenue et qu'on m'a dit que je devais me considérer comme malvoyante. Et puis, étant donné que c'est une dégénérescence de la rétine, ça s'est poursuivi sur des années et des années et des années. J'ai perdu, enfin moi, ce que je considère avoir complètement perdu la vue, c'est autour de mes 40 ans, donc sur plus de 25-30 ans. Hein, je ne sais pas très bien quand est-ce que ça avait démarré exactement. Il y a 40 ans, j'ai considéré que je ne voyais vraiment plus, à la rigueur juste un peu le jour et la nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
En fait. Comment vous avez adapté un petit peu votre vie par rapport à votre vie de famille, à vos loisirs, etc.
J'ai jamais voulu rentrer, on va dire, dans la case handicapée. Donc, j'ai toujours bataillé pour faire comme ce que j'ai considéré le commun des mortels. Donc, j'ai réussi à poursuivre mes études. Je suis devenue psychologue. J'ai pu aller à l'université après le bac, même si ça a été extrêmement difficile, puisque j'étais vraiment très malvoyante. Et qu'à l'époque, il faut dire, il n'y avait pas le matériel, l'extraordinaire matériel numérique qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes études avec une loupe. Et ça a été compliqué. Mais voilà, j'avais mon objectif, c'était de devenir psychologue. J'ai fondé une famille, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants qui sont maintenant grands. Et j'ai souhaité aussi travailler, ce qui n'a pas été simple du tout, parce que vous embauchez pas vraiment une psychologue très malvoyante ou non-voyante, ou c'est très peu. Alors néanmoins, j'ai obtenu un poste sur Paris, alors que j'habite Tours. Pour mes déplacements, en fait, c'était quand même devenu extrêmement compliqué. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait la demande de mon premier chien guide. Et j'ai eu Dyke qui m'a accompagnée dans tous mes déplacements sur Paris.
Alors, quel changement ça a apporté par rapport à vos déplacements au quotidien, à votre vie de tous les jours en tant que psychologue, l'arrivée du chien guide, justement ?
Ah mais c'est énorme le changement que ça a provoqué. En fait, j'étais devenue très dépendante de mon entourage. La canne blanche, j'ai jamais été très très à l'aise, déjà d'un point de vue psychologique, parce que pour moi, prendre une canne blanche, c'était m'afficher justement à nouveau en tant que handicapé aveugle, ce qui était très douloureux pour moi à cette époque. Et j'avais la sensation que un chien m'afficherait moins, m'étiqueterait moins en tant qu'handicapé en fait. Et puis Dyke m'a donc redonné de l'autonomie. J'ai à nouveau pu sortir, prendre le bus, aller seule à des rendez-vous et donc jusqu'à oser aller sur Paris et puis même plus tard, oser encore reprendre une formation, des études. En fait, ça m'a ouvert les portes de chez moi et ça m'a ouvert les portes de la rue, de la ville, ce que je n'arrivais plus à faire avant mon chien guide.
Et vous avez même pu continuer, reprendre des activités sportives.
Ah oui, alors ça en fait je crois que j'ai à peu près toujours fait du sport enfant, mais je pense que à partir du moment où on m'a diagnostiqué ma déficience visuelle, je ne saurais pas vous l'expliquer parce qu'à l'époque, ce n'était pas réfléchi. J'ai vraiment mis un de mes gros objectifs, c'était pratiquer le sport. Donc, voilà, 14 ans, je me souviens, j'étais en seconde, ouais, 15 ans, j'ai commencé le karaté. C'était un peu surprenant pour ma famille. Mes parents avaient assez peur que je pratique le karaté, surtout du fait de ma déficience visuelle, même si elle n'était pas encore très importante, elle était suffisamment gênante. Et néanmoins, moi, j'avais besoin de ça. De pratiquer un sport pour, je pense hein, aujourd'hui, me dire au niveau corporel, j'avais besoin de pouvoir bouger. Je sais que par la suite, j'ai vraiment réalisé que ça me permettait des déplacements en toute sécurité dans des lieux voilà, sécures où je pouvais pratiquer, m'épanouir en toute liberté. Et puis j'ai aussi cet état d'esprit de défi, de challenge. Donc le karaté s'y prête bien puisque vous devez passer régulièrement des épreuves pour progresser jusqu'à ce que je passe la ceinture noire, puis le deuxième dan, et ce qui m'a amené jusqu'au championnat de France, les premiers championnats de France de para-karaté en 2018, où j'ai été championne de France.
Tout d'abord, félicitations. Puis, vous êtes aussi championne du monde 2024, alors cette fois de para-apnée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis comment vous en êtes arrivée au choix de cette discipline vraiment en particulier?
Oui, alors en fait, après le karaté, grâce à une de mes associations de déficients visuels, j'ai eu l'opportunité de faire un baptême de plongée. Donc j'ai fait un baptême de plongée en piscine, hein, ce qui a été assez, on va dire, sympathique. Mais surtout, on m'a offert la possibilité d'aller pratiquer la plongée en mer Méditerranée. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. J'aimais bien l'eau avant, mais j'ai découvert tout un tas d'autres aspects bénéfiques pour moi de me déplacer dans l'eau avec un moniteur, en fait. Et puis, je me suis inscrite dans un club après cette semaine de stage de plongée, un club près de chez moi, où j'ai pu progresser là aussi et passer des niveaux de plongée jusqu'à aujourd'hui où j'ai passé mon PEJ 40. C'est ce qui signifie plongeur en situation de handicap, pouvant plonger à 40 mètres. En parallèle de ça, dans ma piscine, il y avait des entraînements d'apnée et j'ai un moniteur qui m'a invité à expérimenter l'apnée dynamique. C'est le déplacement donc d'un apnéiste avec, en l'occurrence pour moi, des palmes, mais sous l'eau, au fond de l'eau. Et quand on ne voit pas du tout, on pourrait faire des jolies diagonales dans la piscine parce que celui qui voit, il va instinctivement redresser son axe pour aller tout droit dans sa ligne d'eau. Sauf que moi, bah, je ne pouvais pas. Et donc, il a eu l'idée de me tendre un bout au fond de la piscine, c'est-à-dire une corde qui
D'accord.
tend au fond de l'eau, donc sur la longueur de la piscine, donc comme un fil d'Ariane. Et moi, j'ai simplement à faire comme une boucle avec mon index et mon pouce autour de ce bout et de palmer, et comme un fil d'Ariane, et j'ai juste à le suivre. Et ça a été pour moi un moment extraordinaire où j'ai retrouvé une forme de liberté et d'autonomie, parce que à ce moment-là, bah, je pouvais pratiquer avec ce matériel, mais sans l'aide de quelqu'un pour me guider dans la piscine ou sans que je me cogne ou que je fasse n'importe quoi en allant en diagonale.
Ouais. Vous aviez dit dans un article d'un journal régional que justement, en fait, avec la para-apnée, ça vous permettait d'être dans votre bulle, en fait, que dans l'eau, tout s'arrête. Vous faisiez un joli contraste avec les déplacements quotidiens, avec le chien guide ou à la canne, où justement, on doit être constamment en alerte.
En effet, dans la ville, avec Orkney, mon chien guide, actuellement, il y a du bruit, il y a du danger, il y a des prises de risque des fois, malgré nous, hein, quand on doit traverser une rue et qu'il y a des travaux et qu'on se demande, bah voilà, parce que est-ce que c'est le bon moment pour traverser? Ce qui n'est pas toujours évident, en fait. Et c'est tout le temps bruyant. Enfin, l'univers d'un déficient visuel, enfin, pour ma part, du fait que je fonctionne qu'avec aussi des synthèses vocales, mon univers est malgré moi bruyant, puisque je pratique pas le braille. Donc, si je veux lire un livre, lire mes mails, faire des recherches sur Internet, si je veux avoir accès à la connaissance, à la culture, je dois en passer aussi par le son. Et c'est vrai que à force, c'est quand même fatigant. On aimerait des fois bien se reposer, sauf que si je me repose sans le son, je me repose, je fais rien, et ce qui m'embête, moi, de ne rien faire. Et c'est vrai que là, dans la piscine, enfin, dès que vous mettez la tête dans l'eau, que ce soit la piscine ou encore mieux en mer, vous êtes enveloppé d'un silence. Enfin, c'est pas un silence total parce qu'on entend toujours des petits bruits, mais tellement rien comparé au bruit de la vie de tous les jours qui est extrêmement stressant. Je trouve à force, c'est stressant pour les oreilles, le bruit. Moi, bon, à force, le bruit vraiment est stressant. Aller dans un restaurant où il y a plein de monde, c'est fatigant, c'est stressant,
Ouais.
parce que vous n'avez que le son pour vous repérer, pour écouter, alors que bah, quand vous êtes voyant, vous pouvez vous appuyer aussi sur ce que vous voyez pour avoir des informations. Là, quand on ne voit pas du tout, on a à ce moment-là que le son pour avoir un maximum d'informations. Et c'est fatigant, c'est usant, c'est stressant. Et dans l'eau, dans l'eau. Alors, je suis dans l'eau. Je vais pas pouvoir dire que je prends une bouffée d'oxygène, mais ou si je la prends avant d'aller en apnée, en fait. Mais vraiment, c'est reposant. Je me détends. C'est vraiment un sentiment de sérénité. C'est aussi ce que je recherche parce que j'ai cette tendance à être un peu hyperactive. Et je sais que, voilà, pour mon bien-être personnel, à un moment donné, il faut aussi se poser. Et l'eau m'y aide. L'enveloppement de l'eau vraiment contribue à cette détente, cette sérénité.
Et vous disiez aussi dans l'article que vous aviez été très très bien accueilli et pris en charge par les autres membres du club.
Oui, en fait, j'ai rencontré, que ce soit au niveau des moniteurs de plongée ou des plongeurs valides et des apnéistes, ou encore de mes amis qui ont un handicap comme moi et qui pratiquent la plongée, l'apnée. Un environnement très chaleureux. L'environnement, l'ambiance de la plongée, c'est très chaleureux. C'est un sport, la plongée de loisir. Voilà, on y trouve une ambiance sympathique. En apnée, bah finalement, il y a aussi des challenges, des défis, tout le monde a envie de progresser. Et en même temps, enfin moi, j'ai pas rencontré de concurrence, en fait. Et d'ailleurs, quand je suis allée au championnat du monde de para-apnée en Italie l'année dernière, le collectif France, donc on était 9 Français apnéistes et napistes, hein, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la nage avec palme, donc avec un handicap moteur ou visuel, et on a eu une entente, une cohésion incroyable, ce qui d'ailleurs nous a permis à tous de dépasser nos performances personnelles. Voilà,
D'accord.
je pense que la plongée, l'apnée, mais aussi le fait d'avoir entre nous un handicap a fait qu'on s'est tous soutenus, encouragés et qu'il n'y a pas de concurrence entre nous.
Parce que vous avez le profil d'une personne qui est très dynamique et très sportive, qui a une réelle motivation pour maintenir son autonomie malgré la déficience visuelle. Parce que, on le rappelle, vous êtes championne de France de karaté. En 2024, vous êtes championne du monde de para-apnée. Est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes déficientes visuelles, malvoyantes ou non-voyantes, qui n'oseraient pas forcément se lancer dans une aventure comme ça?
Alors, si je devais être très direct, ce serait justement d'oser. Quand l'envie, elle est là, de rencontrer du monde, de pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi d'autres activités de partage, telles que, je sais pas, l'art créatif, la musique. Mais je pense que se limiter du fait de la peur, peut-être. Dans la perspective que peut-être on ne soit pas bien reçu, on va soi-même se limiter, alors que finalement, on ne sait jamais sur quel individu on va tomber. Il y a des gens qui ont vraiment envie de nous faire partager leur passion, de progresser. Donc, c'est vraiment d'oser. Moi, j'ai un moniteur d'apnée qui est tellement passionné que je pense, son plaisir est de partager sa passion. Et donc, même avec moi, il ne perçoit pas les limites comme des limites, mais j'ai envie de vous dire, comme des challenges il va aller à la recherche de solutions pour me permettre de pouvoir pratiquer et de partager en fait sa passion. Donc, c'est oser sortir de chez soi, oser aller à la rencontre de personnes. Enfin, moi, je pense, je suis persuadée que le sport pour un déficient visuel est vraiment essentiel parce qu'on a un handicap qui finalement nous emprisonne dans notre corps. Même si notre corps est en parfaite santé, du fait de très mal voir ou de ne pas voir, fait qu'on a du mal à bouger. Parce qu'on a peur de l'accident. C'est vrai que chaque déplacement, c'est mettre un pied devant l'autre dans la rue, en dehors de chez soi, de son terrain connu, c'est prendre un risque. Alors, pratiquer le sport dans des lieux sécurisés, bien encadrés, et nous permet de pratiquer avec justement de la sécurité et de faire évoluer, d'évoluer, de faire évoluer notre corps, voilà, dans un endroit où on va oser mettre le pied devant. Comme je disais tout à l'heure, quand je faisais du karaté dans le dojo, quand vous faites du karaté, alors moi c'était pas forcément les combats, mais c'était surtout les katas. Ce sont des chorégraphies de combats imaginaires. Bon, il faut pas retenir vos gestes. Il faut avancer il y a des techniques précises, il faut donner des coups de pied, il faut faire des sauts. Dans la vie de tous les jours, c'est impossible de pratiquer ça, même un dixième de ça dans la rue. En fait, on ne va pas courir, faire des sauts quand on est non-voyant. Alors que dans un dojo, oui, et ce qui permet à notre corps de se libérer. Et des fois, hein, j'entends que dans les collèges, par exemple, les enfants qui ont une déficience visuelle dérangent dans le collège, dérangent le prof de sport parce qu'il ne sait pas comment faire et que, certes, il a énormément d'élèves à gérer et donc il n'a peut-être pas le temps d'encadrer ou d'adapter pour un enfant déficient visuel. Et néanmoins, c'est vraiment à cet âge-là qu'il faut permettre à l'enfant d'appréhender son corps, d'appréhender son environnement et d'avoir comme tout petit aussi, hein, une bonne représentation de son schéma corporel. Donc, je ne peux que promouvoir la pratique du sport, en fait.
Parce que justement, à travers le sport, il y a aussi cet aspect de dépassement de soi pour une personne en situation de handicap en général. Il y a aussi ce rapport relationnel, rapport aux autres, etc. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien parce que, comme vous aviez dit au tout début de l'entretien, en fait, vous êtes psychologue. Et vous avez repris vos études, la déficience visuelle ne vous a pas empêché en fait, voilà, d'accéder à cet emploi que vous exercez toujours aujourd'hui. Est-ce que justement il y a eu un aménagement ou une adaptation quand même par rapport à votre poste de psychologue en tant que non-voyante?
Alors, en fait, assez peu. N'ayant finalement pas trouvé de poste où on voulait embaucher une psychologue aveugle, un peu désespérée, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat et je me suis installée en libéral sur Tours. Et non, j'ai besoin d'un petit cabinet, de deux fauteuils, on est en face à face. J'ai mon ordinateur avec mon lecteur d'écran, ma synthèse vocale, et je prends des notes voilà, pendant que mes patients voilà, me relatent leur vie, leur expérience, leurs problèmes. Et donc, à ce niveau-là, voilà, j'ai juste adapté comme ça, mais comme n'importe quel psychologue qui prendrait une note sur son ordinateur. Après, comme je n'ai pas la vue, je pense que je n'ai pas eu le choix que de développer mon écoute et mon attention.
Que dans les
Oui.
intonations, la manière de dire les choses, peut-être, c'est comme ça que vous arrivez un petit peu à étudier les conversations avec les gens.
Oui, tout à fait. Et puis, bah, les personnes, ils viennent avec un réel souci. Donc, bah, moi, je vais, alors, comme n'importe quel psychologue, hein, savoir quelles questions je vais poser pour les amener à développer en fonction de si je suis dans la phase de diagnostic ou dans la phase de thérapie. Voilà, j'écoute. J'ai des patients qui savent qu'ils viennent consulter un psychologue non-voyant. Alors, il y en a certains que ça les arrange parce que comme ça, ils n'ont pas le regard du psychologue sur eux quand il y a un problème, par exemple, d'estime de soi. Mais en l'occurrence, ils viennent pour que je les aide. Donc, vraiment, ils font la démarche. Alors, peut-être, à certains moments, ils vont penser que je ne vais pas avoir une information, donc ils vont me la transmettre. Souvent, je l'ai ressenti, quelqu'un pourrait me dire, alors là, je suis très très stressée. Et c'est vrai que en fonction du débit, de l'intonation, je le saurais. Il y a des choses que, par contre, certainement, je passe à côté, mais par exemple, j'ai un de mes patients aujourd'hui qui m'a dit, j'ai des tics, je cligne les yeux. Et donc, il veut qu'on travaille, c'est un questionnement pour lui, ça le dérange. Il me l'a manifesté. Ce n'était pas dans son intérêt qu'il garde ça pour lui. J'aurais pas pu l'aider. Et lui, ce qu'il veut, c'est que je l'aide. Donc, en fait, j'ai des patients qui se sont adaptés complètement à ma situation et on fonctionne relativement bien ensemble.
Et avec vous pendant les séances, est toujours présent Orkney, du coup votre chien guide actuel, et auparavant Dyke, qui était votre premier chien guide.
Oui, tout à fait. On part de la maison, on va direction le cabinet. Donc, j'ai absolument besoin d'Orkney et de Dyke avant pour mes déplacements. Et puis, une fois dans le cabinet, alors Orkney, bien plus que Dyke d'ailleurs, puisque en fait chaque chien a son caractère, Orkney est très présent auprès de chacun de mes patients. C'est autant Dyke ne s'intéressait qu'à ceux qui s'intéressaient à lui, alors qu'Orkney, il tient, mais c'est juste incroyable en fait, et j'ai rien fait pour ça, c'est lui, il tient à dire bonjour à chacun de mes patients. Il se lève avec moi, ou alors il va juste se poser à côté du fauteuil, mais il rencontre chacun des patients. Donc il dit bonjour, c'est aussi un moyen voilà, pour le patient et pour moi de commencer voilà, gentiment la séance en disant on se dit bonjour, on dit bonjour à Orkney, on fait un petit commentaire. Orkney est selon les patients plus ou moins présent parce qu'il ressent très bien que certains n'ont pas trop d'intérêt pour lui et là ben, il ne va pas s'imposer, il va rapidement se coucher, donc ou quand même à côté ou même un peu plus loin. Et puis il y a les patients qui ont vraiment besoin d'interaction. Et bah lui, il est content, il aime bien aussi ses interactions, donc il va aller les voir. Et même quand j'ai des patients qui sont tristes ou qui pleurent, Orkney se lève et vient délicatement poser son museau sur leur genou et Voilà, je me souviens d'une patiente qui m'a dit, mais aujourd'hui j'ai fait ma séance de câlinothérapie. Elle avait beaucoup pleuré. Et...
Il a un rôle de médiateur, du coup, c'est ça aussi.
Oui, et c'est lui qui a pris ce rôle-là en fait. C'est ça qui est amusant. C'est moi, j'ai pas fait de formation de médiation animale, donc j'ai pas amené mon chien, mes chiens à faire ça. Mais c'est le caractère d'Orkney. C'est mon co-thérapeute d'ailleurs, je dis toujours. Il y a un réel partage en fait. Il fait partie de la thérapie. Et le soir, c'est très drôle parce qu'il sait toujours, je termine mes consultations à 19h. Et vers 19h, voir si on a un peu de retard, il se lève, et il commence à se faire remarquer et à chanter. Et là, j'ai mes patients, ils disent, ah oui, c'est l'heure, il faut qu'on arrête, je te libère, Orkney.
Et par rapport à votre seconde carrière de para-apnéiste, est-ce qu'il y a des dates à retenir? Quel est l'agenda pour 2025?
On n'a encore pas de date à venir pour les premiers prochains championnats du monde de para-apnée. C'est encore très flou. C'est vraiment un sport très très jeune. Par exemple, l'année dernière, c'était les deuxièmes championnats du monde de para-apnée. Ce qui veut dire que les premiers, c'était en 2023. Il n'y avait quasiment que l'Italie. Alors, c'est l'Italie qui les organisait. Il n'y avait quasiment que des Italiens. En 2023, voilà, un petit groupe de trois apnéistes français ont réussi à ouvrir les portes au suivant. Donc, ben, en l'occurrence, à moi l'année d'après, en 2024. Mais c'est pas quelque chose encore de vraiment établi. Donc, on a là pas encore de date. Et en France, malheureusement, pour le moment, c'est encore une section, une activité qui n'est pas reconnue au niveau handicapant. Donc, quand je pratique l'apnée en compétition en France, c'est toujours avec les valides, dans des conditions d'aménagement où il ne faut pas qu'il y ait trop d'aménagement et de différences. Et de toute façon, je n'aurais pour l'instant encore, mes résultats sont mélangés aux résultats des personnes valides et il n'y a pas de voilà, pour l'instant il n'y a pas de catégorie handicapée en France pour l'apnée.
D'accord, bon, en tout cas, on n'hésitera pas à partager toutes vos actualités. Et puis, on espère aussi que beaucoup de médias s'y intéresseront. En tout cas, moi, je voulais vous remercier, Magali, parce que c'était un très, très beau témoignage par rapport à votre vie professionnelle, à votre vie de famille et au niveau de vos loisirs. Merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir pu vous rendre disponible pour cet entretien et faire ce retour sur votre expérience.
Eh bien, avec grand, grand plaisir. Merci de m'avoir accordé ce temps-là.
Merci à vous et à bientôt Magali.
À bientôt.